Ah ouais donc, le podcast Les Buts Remplis qui reçoit quelqu'un qui est dans une destination vacances, mais non, il est loin d'être en vacances, dépisteur.
Non. Il fait pas de plage. Ouais, il non, fait pas de plage, c'est clair cette semaine. Le seul sable qu'il voit, c'est entre les buts. Je suis vraiment content, vraiment, vraiment content de l'avoir sur l'émission. Tu sais, ben, on s'en parle depuis le début du podcast, qu'Alex, il faut lui réserver une émission à un moment donné. Ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que je suis vraiment content qu'on puisse l'accueillir. Puis, écoute, on va l'amener tout de suite avec nous.
Pour ben oui, le grand et généreux Alex Agostino.
Alex Agostino. Salut Alex.
Salut les gars.
Tellement gentil de prendre le temps, Alex. Merci d'être là. Première question que j'ai le goût de te poser, puis juste pour mettre un peu les gens en contexte, c'est t'es où en ce moment? Comment ça se passe? Puis c'est quoi une journée typique pour toi là, ces jours-ci?
Ces jours-ci, je suis dans les séries de la Cape Cod League, la prestigieuse ligue qui n'a pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie. C'est les finales. Une journée typique. C'est une journée, c'est plus tranquille que le reste de l'été parce que c'est une partie par jour. Récemment, j'étais dans des showcases où tu es 12 à 14 heures par jour au terrain, 3-4 parties par jour, 200 joueurs, un peu à gauche et à droite. Là, c'était les quatre finalistes. Alors, le matin, c'est relax, un peu d'entraînement, lire les rapports que j'ai écrits la veille, voir du vidéo. Et ensuite, les parties sont généralement soit à 4 heures, dépendamment du terrain, parce qu'il y a des terrains qui n'ont pas de lumière, ou à 6 heures, comme ce soir, à Bourne pour la finale, où ils vont accueillir Brewster. Toutes des petites villes qui sont l'un à côté de l'autre. Aller au terrain quand même vers 3h30, parce que tu veux voir les joueurs arriver, comment ils arrivent. Ensuite, vers 4 heures, tu regardes les pratiques au bâton. Parce que souvent, dans une partie, tu as des noms désignés que tu ne connais pas. Le gars, ben, deux buts sur balle, un rétro bâton, un pop fly au deuxième but. C'est dur d'évaluer c'est des fois un petit peu le frappeur de cette façon-là. Alors, le voir faire ses 3-4 rondes au bâton, ensuite le voir faire sa pratique d'avant-match où les joueurs sont quand même, même si c'est la fin de l'année, sont quand même jeunes et en santé. Ils savent que les dépisteurs sont là. Alors, lorsqu'ils font la pratique du infield-outfield, comme on appelle, ben, tu peux voir le bras du voltigeur, les bras des receveurs, comment que les gars bougent. Ensuite, c'est le temps de la partie où tu as souvent 2, 3, puis même 4 lanceurs par équipe. Parce que les lanceurs qu'on épie dans la Cape Cod League, c'est rare qu'ils vont lancer 7, 8 ou 9 manches. Ils sont sur ce qu'on appelle des limites de pitch count. Alors, c'est des jours. Cape Cod, c'est probablement l'activité d'été la plus fun, la plus relaxe. Les gens sont en vacances, les stades sont pleins à craquer. Le monde est de bonne humeur. Les jeunes qui sont là, ils sont fiers de faire partie de cette prestigieuse ligue. Puis nous autres, ben, tu as des dépisteurs d'un peu partout. C'est plaisant. Ce que j'aime, c'est plaisant. Les gens, le soir, là, dans les estrades, là, il n'y a pas de chicane. Le monde est en vacances. L'arbitre fait une erreur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui chiale dans les estrades. Ils se parlent entre eux autres parce que tout le monde parle soit des Red Sox, des Yankees ou de la partie qu'ils regardent. Puis ils savent qu'ils voient des jeunes prospects qui vont être dans les majeurs dans le futur parce que c'est une ligue qui existe depuis longtemps. Puis on a beaucoup de plaisir. Moi, c'est. Puis deux, la dernière chose, c'est que ça me rapproche de la maison, 6 heures de la maison. J'ai hâte au retour parce que ça fait quand même depuis le 1er juillet avant le repêchage que c'est à 100 000 à l'heure. Alors là, je finis ici. C'est le fun de voir du bon baseball. Puis l'été tire à sa fin pour le dépistage 2022.
Les joueurs qui sont dans la Cape Cod League, là, juste pour donner une idée, c'est plus des joueurs qui vont être admissibles au repêchage, par exemple 2022-2023. C'est des joueurs qui évoluent, par exemple, dans les collèges américains, à l'université aussi.
C'est tous des joueurs qu'il faut qu'ils soient dans le collège américain. Tu n'as pas de joueur d'école secondaire. Alors, le joueur qui a gradué l'année passée, il y a d'autres ligues alentour qui peut jouer ou dans leur faculté. Mais alors, c'est des gars de 2022-2023. Tu as une couple de joueurs qui c'était des 2021 qui n'ont pas été repêchés puis qui ont continué parce qu'ils sont éligibles. Un exemple, si je vois quelqu'un ce soir de 22 ans ou 23 ans qui était éligible en 2021 puis qui nous surprend ou qui fait quelque chose, on pourrait le signer immédiatement après la partie. Ces joueurs-là, soit qu'ils finissent leur carrière puis peuvent retourner à l'école pour faire leur maîtrise. À cause de la pandémie, plusieurs de ces joueurs-là ont une année de plus au niveau éligibilité parce que la saison 2020 n'a pas compté contre leurs 4 ans, même s'ils ont fini l'école. Ils sont éligibles, mais peuvent retourner à l'école. Alors, on verra avec ça. Mais à date, c'était des 2022, des 2023. De temps en temps, tu as des 2024, des joueurs qui ont joué une première année au niveau collégial. Mais avec le baseball majeur qui a établi des ligues un peu partout aux États-Unis avec l'élimination des équipes des ligues mineures, ben, tu as des ligues pour les recrues, tu as des ligues pour les deuxièmes années. Mais quand tu es un jeune joueur collégial puis ton entraîneur dans ton collège a beaucoup de contacts, c'est ici que tu veux venir jouer lorsque tu arrives à ta deuxième saison et ta troisième saison parce que les dépisteurs préparent 2022. Mais on a déjà un œil sur 2023 avec les jeunes joueurs qui sont présents.
Dans le fond, là, Alex...
On a quelques Québécois hein, qui ont joué dans la Cape Cod League.
Dans le passé...
Charles Leblanc a déjà joué.
Oui, Charles Leblanc, Mathieu Denegautier, Édouard Julien. Cette année, je pense pas... Antoine Jean était là année, à la fin de l'année. Oui, oui. Malheureusement, son équipe, où, lui, je ne l'ai pas vu depuis que je suis revenu, mais je sais qu'il y a eu des bons moments à la fin. Puis souvent, des gars qui ont eu une saison collégiale écourtée, que ce soit par les blessures ou des fois par les performances, ben, l'été, c'est le temps d'aller rechercher tes manches de travail pour arriver à l'automne prêt pour compétitionner pour un poste avec ton équipe.
Oui, à ce niveau-là, j'étais content de voir Antoine se remettre un peu dedans, puis c'était intéressant les sorties qu'il y a eu dans la Cape Cod League.
Moi, Alex, j'ai le goût de revenir dans le passé, parce que ça fait longtemps que tu fais ce métier-là, et moi, je voudrais savoir comment un Québécois fait pour se retrouver comme recruteur professionnel chez les Phillies de Philly. C'est quoi le parcours que tu as fait pour te rendre jusque-là?
Ben, tu sais, il y a pas. Oui, il y a une école de dépisteurs, mais une fois que tu es directeur d'équipe, mais quand tu es arrivé, être un Montréalais, un Québécois qui œuvre dans le baseball, puis de devenir dépisteur, ben, c'est un petit peu. Je pourrais dire, c'est un peu de chance là-dedans parce que. Mm-hmm. Puis la chance que j'ai eue, c'est d'avoir travaillé à Baseball Québec, d'avoir travaillé côte à côte avec les expos dans mes 5 années de 91 à 95 lorsque j'étais directeur technique de la Fédération du baseball amateur. C'était l'avenue de l'Académie de baseball Canada. Alors, mon rôle à Baseball Québec, c'était directeur technique un petit peu le matin puis le début d'après-midi où je m'occupais des entraîneurs, les équipes élites, le midget 3, le début des sports-études. Bien, l'après-midi, c'était entraîneur avec l'Académie de baseball Canada. Nos bureaux étaient à côté des expos. Alors, on avait une chance inouïe de voir les expos compétitionner tout le temps et on avait aussi beaucoup d'événements ensemble. La tournée Petro-Canada au jeu, toutes ces différentes choses-là. Alors, en ayant la chance de travailler la tournée Petro-Canada au jeu, c'était des écoles de baseball avec Claude Raymond. Mais moi, je ne connaissais pas grand monde aux expos. Je n'avais pas joué professionnel. J'avais joué mes années juniors. J'avais coaché. Baseball Québec m'a donné cette opportunité-là, coacher l'équipe nationale. Mais à un moment donné, j'ai commencé à faire des camps, des événements que les expos faisaient et j'étais invité au camp d'instruction des expos à l'automne, où tu es là comme pour apprendre, puis lancer les pratiques au bâton, faire toutes sortes de choses, faire tes contacts. Puis la grande raison, puis c'est Claude Raymond. C'est simple, tu as besoin des gens qui croient en toi, tu as besoin des gens qui voient le potentiel et qui parlent pour toi. Puis la chance que j'ai eue, c'est qu'en 94, il y a eu une grève. Puis, malheureusement, à cause de la grève, plusieurs gens ont perdu leur emploi, dont René Marchand, qui était le dépisteur à l'époque, qui était et encore un ami à moi où on a travaillé ensemble beaucoup. Puis ça a fait en sorte que on a laissé aller beaucoup de monde. Moi, le fait que j'étais là en 95 à Baseball Québec, plusieurs options, les expos ont décidé de revenir à la charge pour avoir un dépisteur local. J'ai eu une rencontre un matin avec Richard Bellec pour un poste à Baseball Québec, à Baseball Canada, et l'après-midi avec Kevin Malone pour un poste de dépisteur avec les expos. Les deux entrevues ont bien été. Kevin Malone, le lendemain, m'a offert un poste à temps partiel parce qu'il restait 6 mois dans la saison pour 15 000 $ Alors, c'est un petit peu comme ça. C'est en travaillant à la Fédération. Si les expos n'existent pas, comme aujourd'hui, ils ne sont pas là, très difficile. Tu sais, je veux dire, c'est poussé pour toi. Alors, j'ai eu cette chance-là, un peu comme notre ami Alex Antopoulos, qui est un DG aujourd'hui. Puis il faut qu'à cause des expos, à cause du déménagement, à cause que le baseball majeur a pris l'équipe, s'il n'y a pas d'équipe, est-ce qu'un gars comme Antopoulos, la carrière qu'il a, est-ce que moi, j'ai la carrière que j'ai? Je ne suis pas sûr. Mais les 5 années passées à la Fédération, puis tous les gens avec qui j'ai œuvré, que ce soit les dirigeants, les entraîneurs, les gens de sport-études, c'est eux qui m'ont formé. C'est eux qui ont fait en sorte que j'ai pu coacher l'ABC, que j'ai pu coacher l'équipe nationale et que j'ai pu montrer aux expos durant différents événements que je savais ce que je faisais. Alors, lorsqu'on m'a engagé, c'était « Occupe-toi de l'Est du Canada » du mois de février jusqu'au mois d'octobre en 95. Et on verra au mois d'octobre qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre un temps plein? Puis là, ben, j'avais quand même une... Tu sais, j'étais jeune, j'avais 30 ans, les Expos, j'avais un job à Baseball Québec, j'aimais ce que je faisais. Mais mon rêve, c'était de jouer pour les Expos, ça, c'est pas arrivé. J'ai quand même eu du plaisir dans le junior majeur, dans le temps, avec les diplomates de Saint-Hubert. J'ai eu une belle carrière amateur, j'ai entraîné, j'ai joué dans du senior régional, j'ai trippé. Mais quand cette offre des Expos est arrivée, c'était un no-brainer pour moi de dire, bon, je fonce là-dedans. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, honnêtement. Tu es le seul Québécois, tu es le seul Canadien, puis tes patrons, c'est même pas eux qui m'ont engagé. C'est Kevin Malone à Montréal qui m'a engagé. C'est pas le directeur du dépistage Eddie Creech que j'ai jamais rencontré avant que j'aille en Floride à Clare BC cette année-là pour faire ma place. À la fin de cette année-là, on m'a offert un contrat à temps plein et on m'a envoyé dans le temps, c'était le Major League Scouting Bureau Scout School à Lakeland, au camp des Tigers de Détroit. Ouais. Et c'était deux semaines des cours donnés par le baseball majeur. Comment évaluer, comment écrire des rapports, comment se présenter, c'est quoi un peu les différents chiffres qu'on utilise. Et ensuite, les Expos m'ont gardé en Floride 3 semaines avec notre dépisteur là-bas pour faire le Instructional League comme dépisteur. J'avais fait souvent comme coach invité avec les Expos. Mais là, on se promenait à Dunedin, Tampa, Bradenton, Lakeland, à regarder les jeunes prospects et écrire des rapports. Et là, ensuite, l'année d'après, en 96, on m'a offert le poste de dépisteur au Canada. Aussi, on voulait que je sois un peu leur gars qui s'occupait des médias. Là, notre scout en chef qui venait d'Oklahoma, là, il venait pas souvent à Montréal, il parlait pas souvent français. Puis il comprenait pas comment c'était important pour une équipe montréalaise d'avoir quelqu'un qui pouvait parler aux médias, qui pouvait parler à nos joueurs, qui pouvait être présent sur les terrains. On a été présent, on a repêché des joueurs. Puis après ça, ça l'a arrêté. Parce qu'en 1995, moi et Kevin Malone, on avait fait un workout avec Pierre-Luc Laforêt au stade et on l'a repêché en 15e ou 16e ronde. Puis on l'avait signé pour très peu. Puis nos docteurs en Floride, après 2 mois, l'ont laissé aller. C'est tout de suite rapidement que j'ai vu que, wow, c'est le baseball professionnel, c'était peut-être pas aussi le fun que je l'envisageais. Moi, j'étais fier d'apporter les couleurs des Expos, mais je pense que j'étais le seul dans l'organisation au niveau du dépistage qui avait l'Expo tatoué sur le cœur. Les autres, c'était une job vivant en Floride, en Californie, au Texas. Ils repêchaient des bons joueurs, mais les autres, Montréal, là, ils n'étaient jamais venus. Il n'y a jamais eu des réunions. Les réunions étaient tout le temps en Floride. C'était comme les Expos, c'était juste un logo. Là. Et ça m'a frustré au début. Puis après ça, on a commencé à repêcher des joueurs, mais on ne les signait pas. On va repêcher 2-3 pour Alex, il travaille fort. Ça paraît bien, mais on ne les signe pas. Donc, Russell Martin.
Et c'était ma prochaine question. Il est arrivé, c'est ça, le même type de situation avec Russell. Il a porté l'uniforme des Expos.
Parce que l'histoire de Pete Laforêt là, est incroyable aussi. Ouais. Là, parce que, tu sais, il avait été repêché, il avait été signé pour pas cher. Puis, tu sais, Laforêt là, voulait là, tu sais, jouer pour Montréal. Là, c'était rêve. Là, tu sais. Puis après... les médecins décident que non, il est pas assez, il coule ses examens. Puis, mais l'affaire, c'est que après, avec les Devil Rays, je crois que c'est Alex là, tu sais, j'y vais de mémoire un peu là, mais je crois que c'est un dépisteur qui était dans l'organisation des Expos, qui était rendu avec les Devil Rays, qui est retourné la rechercher là.
Ouais, ce qui est arrivé, c'est que Pierre-Luc, on l'a signé pour 5 000 $ puis un petit peu d'argent d'études. La même année qu'on a repêché Michael Barrett, qui était au troisième but, puis Pierre-Luc aussi était au troisième but. C'est drôle, les deux ont joué dans les majeurs comme receveur. Mais Barrett avait été envoyé tout de suite comme receveur. Puis Pierre-Luc avait joué une couple de matchs au troisième but. Il était heureux dans où il était. Il avait 17 ans, il était jeune, puissant. Puis il avait mal au dos un peu, mais tu sais, c'était un gars corpulent. Pierre-Luc, il était fort. Ils ont fait des tests, ils ont dit qu'il y avait des disques qui étaient enflés, puis tout d'un coup, ben, ils ont décidé que non, on va abolir le contrat parce qu'on ne pense pas qu'à long terme, il va être en santé. Ben, tu sais quoi, il a joué, je pense, 17 ans professionnel, dont dans 3 équipes des majeures. Alors, c'est Pierre-Luc qui m'a appelé pour me dire que les Expos le laissaient aller, même pas le directeur du développement en chef. Les deux ont pleuré au téléphone, là, c'était l'enfer. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Là? Pourquoi je travaille dans cette business-là? Je travaille pour les Expos, mais c'est pas Claude Brochu qui allait m'aider. C'est pas les jeunes dans les bureaux à Montréal. Ils s'en foutaient comme dans l'an 40. Alors, le directeur, finalement, il m'a finalement appelé, puis il était vraiment déçu, lui aussi, à ce moment-là. C'est une décision de l'organisation, le ownership, les docteurs. J'ai dit, c'est un Québécois qui a signé pour 5 000 $. Vous voulez me dire que vous ne voulez pas, s'il y a même une réhabilitation, on ne paiera pas pour ça? Là, ça démontrait comment que il était cheap comme organisation. Mm-hmm. Finalement, ça l'a bien fini pour Pierre-Luc parce qu'il est allé au Kansas, je pense, avec Steve Green dans un junior college parce qu'il y avait d'éligibilité pour jouer dans des junior college. On l'a aidé à aller se placer là. Et les Red Devil Rays, là, je pense que c'est M. Fernando Arango qui a déjà travaillé avec les Expos dans le passé, qui l'a signé pour 40 000, alors 8 fois plus l'année suivante. Puis il a joué dans les majeurs avec les Devil Rays. C'est probablement dans tous les gars que j'ai signés, vu que c'était le premier, c'est pas mal mon favorite, juste à cause des embûches qu'il y a eu. Puis tu sais, chaque joueur est spécial, mais ce gars-là, il a tellement bûché pour se rendre dans les majeurs. Il a peut-être pas joué 15 ans, mais il a joué avec les Rays, il a joué avec San Diego. Et il a fini sa carrière, Pat Gillick est allé le chercher avec les Phillies, lorsque je travaillais pour les Phillies, dans une de nos courses au championnat où il a joué un rôle de soutien dans le mois de septembre. Puis, tu sais, le gars, il a joué les capitales, il a coaché, il demeure impliqué dans le baseball au Michigan. Là, ça l'a bien terminé, mais ça m'a montré que c'était une business, puis c'était vraiment décevant. Pour ce qui reste, les gars comme Russell Martin, ils vont à Caraca, on les repêche, on les laisse aller au collège, on a un an pour les signer. Mais là, j'étais à la merci des dépisteurs en Floride, qui eux autres, Nakarata, Martin, c'est des Québécois, là, ils voyaient pas ce que je voyais parce que il y avait peut-être d'autres intérêts. Puis ces dépisteurs-là, c'est des amis, des chums qui m'ont dit par la suite, disons, on s'excuse, j'ai pas vu ce que tu as vu, puis c'est my bad, là, tu sais, c'est ça le dépistage. Mais puis en général, ça finit bien pour les individus. Tu sais, Russell Martin, là, si les Expos l'avaient signé, est-ce qu'il aurait eu la même carrière? Aucune idée. C'est le temps où les Expos s'en allaient, c'est le temps où les Expos, tu sais, dans les mineurs, est-ce qu'un joueur, un Québécois arrivait dans les mineurs avec Montréal, c'est comme, bon, on signe parce que c'est un gars de Québec. Puis là, les coachs dans les mineurs. Tu sais, il arrive avec les Dodgers, c'est juste un autre nom. Là. C'est juste Russell Martin. Là. C'est pas Russell Martin. C'est Russell Martin qui s'en va là. C'est un gars qui a du talent. On veut le mettre derrière le marbre. Parfait, il y a du chien. Bang, ça fonctionne. Tu sais. Alors,
Russell aussi était au troisième but. Hein? C'est toi qui avais mis dans ton rapport que devrait être, être receveur.
Oui, même il jouait à l'arrêt court souvent, il avait des bonnes mains, il était rapide, il était agile. Mais tu sais, des arrêts courts du physique à Russell dans les ligues majeures, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, je pense qu'au collège, il jouait au troisième but. Il avait tous les outils. Il avait des bons pieds, il avait de la rapidité, il avait de l'agilité, il avait des bonnes mains, il avait un bon bras. Et même s'il n'avait pas la puissance qu'il a eu dans sa carrière, c'est qu'il frappait la balle solidement à chaque fois. Puis là, lorsqu'il allait prendre un peu de maturité physique, tu voyais que ce gars-là allait avoir de la puissance et qui mettait la balle en jeu. Puis l'autre chose qui m'avait impressionné le plus, rarement qu'il s'élançait sur des mauvais tirs à l'extérieur de la zone. Et on l'a vu tout au long de sa carrière, que même quand il frappait un peu moins la moyenne vers la fin de sa carrière, il avait toujours une bonne moyenne de présence sur les sentiers parce qu'il ne s'élançait pas sur les mauvais tirs. Alors, tu sais, tout arrive pour une raison. Puis ça a vraiment bien fini pour ces gars-là. Puis par la suite, je pense que 2000, ça c'était le repêchage de 2000, on a repêché Russell Martin, Ivan Nakarata, qui ont eu des belles carrières. Sean Hill, que j'ai eu en sixième ronde, qui a joué dans les majeurs pendant 4-5 ans. C'est un Canadien, mais ses parents sont nés au Québec. On avait repêché Cliff Lee, qu'on a échangé. On avait repêché Jason Bay.
Un échange à Bartolo, ça, Cliff
Lee. Oui, exactement. Mais 2000, on a eu un repêchage incroyable. Puis 2001, on est tous partis avec les Marlins parce que les Expos étaient maintenant propriété du baseball majeur. Alors, tu sais, tu apprends avec le temps. Tu apprends aussi que tu contrôles sur certaines situations, mais tu n'as pas de contrôle sur toutes les situations. Il faut que tu tournes la page rapidement. Et ça, j'ai eu de la misère au début de tourner la page, que ce soit qu'un Pete Laforêt ou un Russell Martin ou même un Ivan Nakarata. Tu te dis, pourquoi que ces gars-là, on n'a pas voulu leur ouvrir la porte à Montréal? Et après ça, ça a devenu une job. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que, comme je disais tantôt, moi, les Expos, moi, Denis Boucher, Mark Griffin, Derek Aucoin, on avait tout l'Expo tatoué sur le cœur, puis on ne peut pas dire la même chose de tous ceux qui travaillaient pour les Expos à l'extérieur. Dans le stade, là, tous ceux qui vendaient des billets, tous ceux qui travaillaient, on était tous tatoués Expo, mais le côté développement et le côté dépistage n'était pas à Montréal. Le dépisteur-chef aurait dû être à Montréal, comme la plupart des équipes, mais il ne l'était pas. Il était en Floride. Les meetings étaient en Floride. Il n'y avait rien qui se passait à Montréal pour montrer au personnel c'était quoi, puis de montrer comment il y avait de l'engouement. Puis, sauf que j'ai parlé du Baseball Québec qui m'ont vraiment bien formé, mais cette année avec les Expos m'ont aidé à devenir un dépisteur plus aguerri, de comprendre plus la game, comment que ça jouait, de comprendre aussi, de voir pas juste des joueurs du Québec puis de Montréal, parce qu'à un moment donné, on m'a donné le Maine, le Vermont, New Hampshire, puis après ça, une petite portion de New York. Et ça, ça m'a préparé spécialement mon arrivée avec les Phillies, ou de dire, bon, ben lui, il peut faire un plus gros territoire. Ça a pris du temps, parce qu'il faut que tu gagnes tes galons quand tu n'es pas un nom connu. Puis, alors, des fois, j'étais un peu dur envers mon temps avec les Expos, mais je ne peux plus jamais enlever le fait qu'ils m'ont donné une chance à Kevin Malone de travailler. Mais je reviens au début. C'est un gars comme Claude Raymond, là, que j'ai un respect extraordinaire. Beaucoup de monde m'ont aidé. J'ai coaché avec mon chum Sylvain Saint-Don dans le junior quand j'ai fini ma carrière de joueur. Louis-Philippe Grenier, qui m'a amené coacher avec les Ducs pendant 3 ans, pendant que moi, j'évoluais. Ma job à temps plein après l'université, c'était au Cap-Glace à Brossard. Je gérais des écoles de hockey de baseball, je gérais un aréna, je faisais des ligues de hockey. Puis je me dis, tu sais, baseball, c'est le fun. Là. Je fais une coupe de 1 000$ pour coacher l'été, mais c'est pas ça qui va mettre ta bouffe à la table. Hein. Alors, un peu de timing, un peu de chance avec Baseball Québec. Puis par la suite, travailler avec des bonnes personnes comme Claude Raymond, qui avait l'œil de Bill Stoneman, puis l'oreille de Kevin Malone, ben. On a eu des rencontres, j'ai été capable de vendre ma salade, puis 27 ans plus tard, je suis encore ça.
Puis tu sais, le fait d'avoir une équipe faut à Montréal à l'époque, c'est sûr que ça te permet de t'ouvrir plein de portes. Oui. Et là, actuellement, il n'y en a pas à Montréal de ce genre d'équipe-là, en tout cas pas pour l'instant. Donc, je suis convaincu qu'il y a un paquet de têtes de baseball qui sont hyper compétentes, qui ont justement l'opportunité d'aller se prouver. Puis finalement, ben, ça tombe, puis ces gars-là réussissent pas à se faire une place.
C'est difficile parce que dans la Cape Cod League, là, chaque équipe amateur ont des stagiaires. Tous des gars, des filles qui sont là, qui ne sont pas payés, ils vivent 4 dans un appartement, ils font du dépistage, ils parlent à des gars comme moi, comment rentrer dans le business, il y en a qui veulent être GM. Il faut que tu te promènes. Il ne faut pas oublier, à Québec, on a quand même les Capitales puis Trois-Rivières là, qui sont de retour. Puis d'après moi, en 2022, il y a des jobs là. Tu peux faire du baseball. C'est sûr que ce n'est pas du baseball affilié, mais tu peux quand même faire de l'animation, tu peux quand même être dans un bureau. Tu as des bonnes têtes qui dirigent les deux équipes. On a des Québécois comme Pat Scalabrini, Pierre Arsenault qui s'est joint à l'équipe, qui sont sur place. Alors, c'est juste que c'est une vie différente. Tu sais, c'est pas du 9 à 5. Est-ce que c'est tout le monde qui veut faire ce travail-là? Tu peux aller aux assises du baseball majeur, donner ton CV. Ton cousin Ben, là, il s'est promené pas mal dans les dernières années. On n'en parle pas beaucoup de Fred Rioux, mais il fait du baseball. Là. On se parle souvent. Mais c'est quelqu'un qui a sacrifié beaucoup pour essayer d'avoir un job à temps plein dans le baseball professionnel. C'est faisable. Évidemment, un retour des Expos fera en sorte que bien des jeunes gaufés du Québec pourraient travailler dans les bureaux. C'est pas juste un job de coach ou de dépisteur. Tu as toutes sortes d'analyses aujourd'hui, tu as toutes sortes de statistiques avancées où tu pourrais travailler. Mais évidemment, que quand tu as une équipe chez vous, ça peut aider. Mais si tu as une passion, il faut que tu fonces comme les jeunes d'aujourd'hui, parce que tout le monde veut être dans le baseball professionnel, mais c'est pas tout le monde qui peut rentrer. Puis c'est pas tout le monde qui veut non plus vivre cette vie de 15-16 heures par jour lorsqu'une saison débute. Alors, oui, moi, j'ai été chanceux, je l'admets à 100%, parce que sinon, j'aurais peut-être eu une carrière dans le hockey que j'aimais bien, mais dans un complexe sportif ou prof d'édu comme j'avais été pendant 2 ans. Lorsque j'ai fini l'école, là, je faisais de la suppléance, je travaillais au Cadillac le soir. Tu sais jamais ce qui va arriver dans la vie, puis à un moment donné, le destin fait son chemin.
Mais le mot, tu y as touché, hein, c'est faut vraiment que tu aimes ça, la passion. Puis, tu sais, ça me touche que tu parles de Fred, parce que Fred, je l'ai vu aller, puis, tu sais, c'est incroyable le parcours, tu sais, parce que Fred, là, il n'y en avait plus d'expo, là, tu sais, quand il est allé. Puis, tu sais, tu as parlé de Claude Raymond qui était bon avec toi, mais, tu sais, je sais que la première job-in à Fred dans le milieu, c'était Bird Dog pour les Phillies de Philadelphie, puis c'est tout qu'il a donné. Puis, ça, à titre personnel, je tiens à te remercier parce que Fred, c'est mon cousin, mais c'est mon petit frère aussi. Puis écoute, après ça, il a été avec les Mariners de Seattle comme un peu stagiaire. Puis il a fait son chemin là. Il était en République dominicaine. Puis là, présentement, il est rendu dans la filiale 3 des Pirates de Pittsburgh.
Dans ma vie, là, j'ai 56 ans. Ça fait 30 ans que j'œuvre dans le sport amateur, sport professionnel. T'sais, j'ai appris beaucoup de Claude Raymond, mais dans la vie, si tu n'aides pas le monde, là, qu'est-ce que tu fais de bon? C'est beau de faire ton travail, mais si tu n'es pas là pour aider, que ce soit un jeune joueur, un jeune amateur dans mes camps, que ce soit un gars comme Fred, que ce soit lorsque j'étais à Baseball Québec, je regarde les sports-études aller à travers le Québec. Là. Puis j'ai une fierté à tous les jours parce que quand je suis arrivé, il y avait voir mon petit qui avait un programme qui était bien parti par Stéphane Lepage, qui est encore là, qui ont eu, ça a été un excellent programme. Et après ça, on a commencé à ouvrir des programmes à gauche et à droite. Puis quand j'ai quitté pour la première fois avec les expos, ça allait bien. Mais je suis revenu quand même lorsque j'étais à temps partiel avec les Félix pendant 4 ans. Je suis revenu à Baseball Québec dans les années 2000, si je ne me trompe pas, 2004-2005, pendant 6-7 ans. On a fait le tour du Québec. Le baseball est en train de mourir, mais avec les dirigeants de la fédération, on a décidé d'ouvrir des sports études partout. Puis ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ce n'est pas un ou deux programmes à travers le Québec. Ce n'est pas 3-4 personnes qui gagnent leur vie. Il y en a une centaine, d'après moi, qui gagnent leur vie dans le baseball. Mm. Sports études, des capitales, Trois-Rivières, Baseball Québec. Tu regardes ça aller, là, comme tu dis, il y en a des bonnes têtes de baseball. Ils sont chez eux, que ce soit à Gatineau, que ce soit dans le Saguenay, que ce soit dans Beauce aujourd'hui, qui ont du baseball, sport études, c'est des jeunes qui regardent ça aller. Je regarde un jeune entraîneur comme Marc-Antoine Bérubé qui vient de Trois Pistoles, qui a fait son chemin, puis après ça, du sport études de Québec, l'ABC, collège américain, professionnel, t'es en train de finir sa maîtrise. Et moi, j'ai une fierté quand je vois ces jeunes-là. On dirait que je me dis, garde, j'ai une petite partie dans le succès du baseball au Québec. J'ai aidé à ouvrir des portes. Puis en finissant, un gars comme Fred, qui a travaillé pour moi pour pas d'argent, à part une coupe de bière puis des soupers là, à Toronto, mais il écrivait des rapports, il me les envoyait, j'ai donné mon feedback là-dessus. Et quand il y a eu des opportunités, ben j'ai toujours été derrière ce gars-là, puis j'y souhaite une longue carrière. Mais il a fait des sacrifices, tu le sais, il a fait des sacrifices.
Ah, vraiment. Ça. Il en fait encore.
Il en fait encore parce que tu peux avoir une job bien payante chez toi.
Comme tu en fais encore, là, tu sais.
On n'a pas le choix. Si on veut faire ça, c'est pas
une job. Je sais que t'as hâte de retrouver ta... Exact.
Très hâte. C'est une vocation. C'est entraîner, dépisteur, jouer au baseball, coacher. C'est une vocation. Faut être une passion. Tu ne punches pas la carte de 9 à 5. Si t'es pas fait pour ça, fais d'autres choses. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je tire à ma fin. Je veux pas. Je veux dire, je ne suis pas sur le front nine, sur le back nine. J'aime encore ce que je fais. Mais je peux vous dire que le voyagement, la façon que ça l'a changé, c'est un peu plus éreintant. Puis je m'ennuie pas mal plus de ma famille qu'au début, ça c'est sûr et certain.
On a toujours vu, Alex, que tu es un gars qui a le Québec tatoué sur le cœur. Puis je sais ouais. que quand tu fais ton travail de dépisteur, ben tu sais, un moment donné, tu as ton travail à faire. Là, fait que ouais. tu peux pas pousser juste pour des Québécois. Là. Mais c'est juste de prendre le temps de parler avec nous aujourd'hui, c'est super apprécié. Tu as les camps Baseball Empire que tu fais avec Ivan, ça aussi tu redonnes au Québec. Puis, plus concrètement, à travers ta job de dépisteur, il y en a un que tu as signé dernièrement, Anthony Quirion. J'aimerais savoir si le bon Anthony va bien, si tu as pu y reparler, malgré que là, tu es super occupé. Là, je sais pas.
Anthony, je l'ai vu, c'est pas nécessairement moi qui l'ai signé parce qu'il était au Texas. Ce qui est arrivé après le repêchage, nos dépisteurs qui travaillent très fort, on a le droit de signer les gars après le repêchage. Et ce qui est arrivé, c'est que Anthony, son nom était sur notre draft board, puis on m'a juste demandé, moi j'ai eu le dernier mot là-dedans, parce que notre dépisteur au Texas, Ralph Gar, le fils de Ralph Gar,
Senior,
qui a joué longtemps avec les Braves d'Atlanta, qui est tout un gars, a toujours aimé Anthony, puis là Anthony était à la fin de sa carrière, puis comme, est-ce qu'on le signe? On ne voulait pas signer de receveur. So, mon patron, il dit, Alex, c'est your call. Je dis, regarde, moi là, ce gars-là, ça fait une couple d'années, je ne l'ai pas vu jouer à part dans une ligue d'été, il y a tout. Un good make-up guy, il a du power, il a un bon bras. Moi, je n'allais pas dire non. C'est-à-dire, j'ai dit, OK, on l'embarque dans le système. C'est le seul receveur qu'on a signé en 2021. Alors, moi, j'ai vu Anthony pendant 5 jours parce qu'après le repêchage, on a envoyé nos joueurs pour leurs medicals à Clearwater et les dépisteurs, les superviseurs, on a été envoyés en Floride un peu pour passer du temps avec les nouvelles recrues. Et là, c'est sûr, j'ai passé du temps avec Anthony au terrain. Il travaillait, vu que c'était le seul nouveau receveur, il travaillait avec Ernie Witt, notre coordonnateur des receveurs. Ça, il était sur un nuage, il était en grande forme, il est fort, bonne pratique au bâton. Malheureusement, tous nos joueurs de position qu'on a signés, ils n'ont pas commencé leur carrière. Il y a deux choses qui sont arrivées. Lorsqu'on était au minicamp, dans l'équipe des recrues qui était déjà signée, il y a eu une petite éclosion de COVID. Ça, ils ont été un peu isolés.
Okay.
Et ensuite, les nouveaux gars, tout ce qu'ils faisaient, c'était des scrimmages puis de l'entraînement. Et là, notre Florida State League, dont Ben Pelletier fait partie, il y a une éclosion de 15 joueurs de COVID. Alors, ils n'ont pas joué pendant une semaine. Ça, tout le monde était un peu en isolement. Mmh. Mais espérons, vu que la saison va finir encore en septembre, que ces gars-là vont être activés bientôt. Anthony, on va lui donner la chance d'être receveur, frappeur désigné, peut-être troisième but. J'aime bien sa puissance au bâton. J'aime beaucoup, beaucoup son attitude. Et quand on peut aider un Québécois spécialement, qu'il n'a pas une tonne sur le board, ben pourquoi pas, tu sais. Est-ce qu'il va jouer un an, deux ans, dix ans, le temps nous le dira, mais je sais que son attitude est exemplaire. C'est un modèle pour les jeunes Québécois qui jouent, qui font du baseball collégial, qui ont eu du succès. Et quand on parle de make-up, là, c'est sur un 2 sur 8, c'est un 8. Les coachs déjà là-bas l'ont bien aimé. Puis lui, il m'a juste dit, garde, moi, j'ai juste hâte de jouer, je vais vous montrer que je suis meilleur qu'un gars qui n'a pas été repêché, qui a signé après le repêchage. Alors, j'étais content pour Ralph Gar qui le voulait. Puis j'étais content d'avoir mon mot à dire à la fin, de dire X, oui, on le signe. T'sais, parce qu'un exemple, si on m'avait dit ça, puis moi, j'avais connu la personne comme pas travaillant, j'ai connu les gars du Québec ou quelque chose que dans le passé serait arrivé, j'avais dit, ouais, c'est peut-être pas le gars qu'on a besoin dans le système. Il faut que je sois honnête envers l'organisation qui me fait. Honnêtement, c'était très facile de dire oui, parce qu'en connaissant l'individu, son parcours, les gens qui le connaissent aussi, à qui j'ai jasé, tout le monde est très content pour lui.
C'est un bel exemple de persévérance. Là, écoute, lui, il n'y avait plus de leverage là, à la fin. Là, son université était finie. Là, il était avec le Big Bill de Quaticook pour garder la forme là, dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Puis je dis pas ça de façon péjorative, parce que la Ligue de baseball majeure du Québec, c'est incroyable, là, le calibre qu'il y a là. Puis les Québécois devraient se bousculer pour aller voir ça.
Il y a beaucoup de talent dans cette ligue-là. Puis un gars comme Anthony qui est allé jouer là, au moins, ça l'a gardé en forme parce que les pratiques au bâton qu'il a eues en début de semaine, après le repêchage, ont été très, très bons. On les frappait la balle au champ posé, il y avait de la puissance. Le son que la balle faisait sur le bâton, là, c'était un son professionnel. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gars de 23-24 ans qui continuent leur ascension dans le baseball, qui signent plus tard à cause de la pandémie. Puis, je me suis dit, pourquoi pas un gars de chez nous? C'est le fun parce que c'est de plus en plus dur. Parce que les bons, que ce soit Édouard Julien, qu'on a repêché avec les Phillies lorsqu'il était secondaire, mais qui voulait plus d'argent, puis qui a décidé d'Auburn, quand les gars arrivent à un point et qu'ils sont bons, je veux dire, il y a 30 équipes qui regardent par la suite. T'sais. Puis là, il y a ça avec les Twins. Tant mieux pour les Twins, mais c'est de plus en plus dur parce qu'à 17, 18, 19 ans, quand ils sont au Québec, avec 20 rondes maintenant, avec moins d'équipes dans les mineurs, c'est encore plus dur de signer les gars. Mais le fait qu'on a des gars comme Antoine Jean qui joue dans Alabama, des Charles Leblanc qui ont passé par Pittsburgh puis sont dans le 3 aujourd'hui, là, c'est un grind. C'est difficile. Mais honnêtement, je pense que le baseball est dans une bonne position au Québec. Les jeunes jouent. Tu parlais des camps de baseball Empire. On a eu un record cette année de 5 semaines. On a un staff incroyable d'anciens pros, de kinésiologues, de gens passionnés. Les kids voulaient faire du baseball. C'était vraiment plaisant de voir ça aller. Moi, j'ai été présent une semaine seulement à cause de la route. Mais maintenant, on a des entraîneurs qu'on peut laisser gérer ça sur place. Puis quand tu fais 5 semaines, puis que tu reçois un courriel sur 200 par an pour dire qu'il y avait quelque chose qui n'a pas été bien. C'est vraiment à cause des
coachs. Dire que c'est très, très bon, ça.
Très, très rare, mais tu sais, le baseball, quand tu joues, même si tu as juste une carrière junior élite ou une carrière senior, tu deviens coach par la suite. C'est quelque chose qui coule dans des veines. C'est quelque chose qui fait que tu es un partisan à vie. Puis même le fait que les expos ne sont pas là, je regarde l'engouement des jeunes. Je regarde l'engouement des adultes qui sont entraîneurs aujourd'hui, qui sont bénévoles, qui sont passionnés. Je regarde le nombre d'écoles de baseball qui poussent à travers le Québec, des petits centres qui commencent à ouvrir. Tu sais, ça démontre que, OK, les expos sont plus là, mais les gens aiment encore le baseball. Puis tu peux t'améliorer, tu peux être bon, tu peux avoir une carrière même si tu n'as pas une équipe. Tu sais, Vancouver n'ont jamais eu une équipe où ils ont eu les Vancouver Canadiens dans les ligues mineures. Mais ils n'ont pas les Blue Jays de Toronto, là. Mais il y en a des joueurs qui vont au collège, il y en a des gars qui jouent dans le baseball majeur qui viennent de l'Ouest canadien. T'sais. Il y a des gars qui ont été repêchés de la Saskatchewan cette année, qui ont passé au niveau collégial. Alors, j'aime bien ce que la fédération fait, j'aime bien ce que les passionnés, les bénévoles font, j'aime bien ce que vous autres, les gars, vous faites pour promouvoir le sport. C'est vraiment plaisant. Puis si j'ai un petit mot à faire, j'ai un petit quelque chose que je peux aider, ça me fait toujours plaisir.
Hey, tu sais, Alex, des fois, on dit qu'il y a une question à 100$ quand tu sens que tu as une bonne question. Là, mais là, je pense que la prochaine là, est 1000$ au moins. Les expos vont-tu revenir un jour?
Hey, la réponse, écoute, on peut en discuter longtemps. Moi, ma réponse, elle va toujours rester oui. Mais le quand, là, c'est une question à 1 million. Ouais. Parce que est-ce qu'ils vont revenir? Moi, je pense que le baseball va revenir. Ça prend du temps. Ça prend du timing. On doit régler des choses au baseball majeur à Oakland, à Tampa. Mais Montréal est une ville du baseball majeur. Il faut juste qu'on se mette derrière le groupe Bronfman. Il faut qu'on soit derrière un projet de construction d'un stade. Il faut qu'on arrête de penser petit. Il faut qu'on arrête de dire oui, mais les hôpitaux, oui, mais l'éducation. Non. Depuis que les expos sont partis, nos routes ne sont pas mieux, nos hôpitaux ne sont pas mieux. C'est une autre chose. Qu'on ait l'Orchestre symphonique de Montréal, moi, je veux que ça reste. Est-ce que je suis un fan de l'Orchestre symphonique de Montréal? Non. Est-ce que je veux qu'il s'en aille? Non. Est-ce que je suis un grand fan de l'Impact? Peut-être pas. Est-ce que j'aime le soccer? J'aime ça. Mais est-ce que je veux qu'il s'en aille? Non. Les Alouettes, j'ai toujours aimé les Alouettes dans ma jeunesse, mais est-ce que j'y vais 15 fois par année? Non. Est-ce que je veux qu'il s'en aille? Non. Est-ce que je veux un nouveau stade pour les Alouettes un jour dans notre ville? Oui. Je me promène dans des petites villes aux États-Unis puis je vois des infrastructures, je me dis, pourquoi que nous autres, il faut qu'on chiale tout le temps si on veut dépenser pour une infrastructure? Maintenant, il va falloir arrêter de penser de même. Il faut penser un petit peu plus big. Puis dire pourquoi pas? Puis j'ai confiance dans le groupe Bronfman. Ça peut être en 2024, 2026, peut-être 2027 à la fin de Tampa. Mais je peux vous dire une chose, les gars. Moi, je suis fier de venir du Québec. Okay? Je suis fier d'être italien. Quand je me promène aux États-Unis, puis les gars qui me connaissent, là, c'est le fun que quand je parle au téléphone, des fois à 98.5, puis je parle en français, tout le monde veut savoir de c'est quoi tu parlais. Puis la première question qu'on me pose, c'est la question que tu viens de poser, Ben.
Ouais, moi je startais pas avec ça.
Même si c'est moi qui. C'est pas moi qui va décider s'ils reviennent ou pas. Moi, je veux qu'ils reviennent. J'aimerais finir ma carrière avec les expos ou devenir juste tout simplement un fidèle partisan à la retraite. Mais j'aimerais bien ça, voir ça. Puis je te le dis, là, les anciens expos que je vois des fois qui sont dans le baseball, il n'y a personne qui est négatif envers ce projet-là. Il n'y a personne qui dit « Ah non, les expos, c'est pas… » Non. Et moi, je parle souvent. Est-ce que Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati, Kansas City, c'est-tu des meilleures villes que Montréal? La réponse, c'est non.
Mais moi, Alex, tu le sais à quel point j'aime le baseball. C'est connu auprès de mes amis, auprès de ma famille, auprès de tout le monde. Fait que la question, est-ce que les expos vont revenir, là? Moi, je me la fais souvent poser. Fait que là, dans le fond, je te l'ai posé pour avoir une autre réponse différente là, à leur donner, parce que là, je savais plus quoi leur dire.
Ben, c'est dur, parce qu'on est des fans, tu sais, on veut qu'ils reviennent, mais en même temps, c'est le baseball majeur, c'est gros, là. Mais je me dis, la Ligue nationale de hockey est rendue à 32 équipes. Le baseball majeur est à 30. Évidemment, il y a de la place pour 32 équipes dans le baseball majeur, de réaligner tes différentes divisions. Puis, c'est juste que quand tu as une équipe tu la perds, comme les Nationals, comme Washington l'ont perdu, ça a pris du temps avant que Washington revienne, là, 40, 50 ans, si je ne me trompe pas. L'autre, on est rendu à 17 ans. Là. Ça peut prendre 25 ans. Ça peut prendre 30, on ne sait pas. Mais tu penses que le timing est bon. Un gars comme Bronfman, est-ce qu'il va toujours, dans 10 ans, va-tu vouloir être là encore? Mais tu sais, lui aussi, il a des enfants. Peut-être que ses enfants aussi, vont arriver dans cette. On va continuer, on veut garder un leg. C'est la famille Molson, c'est le hockey. Est-ce que la famille Bronfman, qui ont déjà été les porte-étendards du baseball, est-ce qu'ils vont revenir? Moi, je pense que c'est fait un beau stade, centre-ville, quelque chose que les gens peuvent aller triper. Tu n'as plus besoin des stades de 50 000 en béton. Un 30, 32 000, c'est en masse, c'est plaisant. Je disais à tout le monde, quand vous allez avoir la chance, allez voir une partie de baseball à Philadelphie. Le stade est incroyable.
Et puis c'est moi, je suis allé trois fois à Philadelphie, c'est génial.
Tu sais, avec le petit Hall of Fame dans le champ, ils ont mis un petit stade, un petit mini terrain de baseball. Les jeunes vont jouer au wiffle ball dans le champ droit. La crème glacée gratuite, un autre bar. C'est un événement.
C'est les fanatiques.
Les fanatiques, tu sais, on avait notre Yuppie. Les gens, tout le monde est habillé en rouge. Tu sais, t'as une fierté. Même si on chialait à Philadelphie, comme à Montréal, les médias, c'est très dur. Là, ça va bien, on est en première position. Tout le monde est en amour, 40 000 personnes au stade, mais quand ils perdent, c'est comme à Montréal. Les lignes ouvertes, ça chiale, les médias, ça chiale, tout le monde doit être congédié. Mais moi, je dis une affaire, quand ça va bien, ils sont tous habillés en Phillies, comme nous autres avec le Canadien. Puis comme nous autres, si les expos reviennent, tout le monde va être habillé avec le bleu, blanc, rouge, s'ils ont les mêmes logos. Alors, tu sais, c'est passionnant de parler de ça parce que c'est notre vie. En tout cas, moi, ça a été ma vie au complet. Mon père, c'est un immigrant italien qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, élevé à Villeray. Puis ses premiers amours, ça a été le baseball, les Royaux de Montréal. Imagine, c'était un grand fan des expos. Il n'y avait pas de soccer dans le temps. Puis toute ma famille tripait sur les expos. Là. Tous les jeunes, mes cousins, tout le monde qui restait à Saint-Léonard. C'était comme les expos, tu sais, le baseball. J'allais avec mon oncle qui était juste 4 ans plus vieux que moi. Tous les opening day, j'avais 11-12 ans, j'allais avec lui, il m'amenait. C'était des souvenirs impérissables, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul.
Bob Cabell devait être populaire dans la famille.
John Bob Cabell, avais-tu une petite histoire de John Bob Cabell?
Non, oui, non.
J'étais à Boston il y a 3 ans, à mon hôtel à Newton. Je demande à à la réception. Y a-tu un bon restaurant italien? Ah, je te le dis, Bocca Bella à côté. C'est un restaurant petit, typique italien. Je m'en vais là. Propriétaire qui fait la bouffe, genre. Je dis, hey, Montréal, Bocca Bella, là, c'était un de mes joueurs favoris à Montréal. Il dit, c'est mon cousin.
Ah ouais.
Il reste à San Francisco. C'est mon cousin. Il vient ici de temps en temps. Je lui montre des photos. Puis vraiment que le monde est petit. Puis quand j'ai parlé de John Bocca Bella, ça. Il dit, c'est à Montréal. Ah, c'est mon cousin, regarde, montre des photos. Avec
ça devait être la fierté pour la famille.
Ah, c'était incroyable. C'était plaisant. C'était plaisant.
Moi, je vais faire du chemin sur la question à 1 000 $ à Ben. Là. Le concept en ce moment qui est étudié, là, c'est le concept des villes sœurs, où on se partage la saison. Toi, Alex, tu parles à des gens qui sont là dans la Ligue, dans le baseball présentement, les joueurs, tout ça. Ça peut-tu arriver, une affaire comme ça? Les joueurs vont-tu accepter ça?
Ça, c'est... Personne n'y croit. Je veux dire, aux États-Unis, là, tout le monde trouve ça farfelu. Moi, ce que je dis tout le temps, puis je vais continuer à dire, c'est que moi, je pense que ça peut marcher pour 1 an. Je ne vois pas comment ça peut marcher pendant 10 ans. Mais si tu n'aimes pas se bâtir un stade, ce n'est pas pour s'en aller. C'est pour jouer leur match. Si Montréal se fait bâtir un stade, il faut qu'il y ait une équipe. T'sais? Alors, on est encore loin, je pense, des discussions. Est-ce que ça peut fonctionner à long terme? Je suis très sceptique. Est-ce que ça peut marcher à court terme? Ou il ne faut pas oublier les Rays de Tampa. Ce n'est pas une équipe avec des vétérans qui gagnent 28 millions, des gars de 33 ans qui ont 4 enfants, qui sont établis à Tampa. C'est des gars qui veulent jouer dans le baseball majeur. Tu vas avoir des gars qui vont jouer dans le baseball majeur pour ces salaires-là. Et de ce que j'ai entendu, on me dit que les joueurs, oui, ils sont prêts à faire des concessions. Le baseball majeur va les aider. Mais c'est une gang de jeunes là, qui jouent avril, mai, juin à Tampa, puis il faut qu'ils viennent finir les 3 derniers mois à Montréal. Ils sont bien payés, puis ils sont un peu... Il y a une compensation, que ce soit pour la façon où tu vas vivre, ces choses-là. C'est faisable. Mais je ne peux pas croire que si Tampa a un nouveau stade, un exemple, comment qu'ils vont dire, ben, il ne sera pas utilisé juillet ou septembre. Mm-hmm. J'ai encore de la misère à croire que c'est quelque chose qui est viable à long terme.
Puis même ici, là, tu vas construire un nouveau stade pour l'utiliser juste en juillet, en août, en septembre.
Ça, c'est l'autre affaire. C'est sûr que c'est les meilleurs moments. Je veux dire, un stade ici, les expos, il faut qu'ils soient utilisés avec la fédération. Il faut que l'ABC soit sur le stade. Il faut qu'il y ait d'autres événements pour que ça soit rentable. Mais la question est très difficile à répondre. Il n'y a pas grand monde qui y croit quand il me pose cette question-là aux États-Unis. Sauf qu'un exemple, si Tampa n'a pas son stade, mais il joue au Tropicana Dome, que j'étais là il y a 3 semaines. Le Tropicana Dome, c'est une dome, en passant. Pas mal pire que ça, la musique. Il y a des showcases qui ont là.
C'est le Tropicana Dome.
Dans un coin qui... C'est un coin qui n'y a pas une tonne de monde alentour. Le coin est en train de s'améliorer. Mais je veux dire, eux autres, ils veulent bâtir des condos, un centre-ville, là, où c'est le stade, la ville de Saint-Pétersbourg. Mais si tu es capable de jouer au Tropicana Dome, puis là, tu viens à Montréal dans ton nouveau stade, ben pourquoi pas l'année suivante, Montréal à l'année au complet. Alors, mais ça, je pense que Bronfman, Sternberg, Manfred, c'est eux autres qui ont cette réponse-là, puis ils ne veulent pas en parler. On finit 2021. Les Rays sont supposés être là jusqu'en 2027. Le temps dira, mais le plus important, les gars, c'est que la convention collective arrive à sa fin après 2021. Exact. Et là, le baseball majeur, là, qui est quand même assez populaire, on s'en va vers les séries, il y a des gens qui sont de retour dans les stades. Il faut absolument que c'est les deux s'entendent, puis il ne faut pas qu'il y ait de grève. Parce que là, après une pandémie, après toutes les misères du monde, si on n'est pas capable de s'entendre sur un sport qui génère 8 milliards, 9 milliards, puis on n'est pas capable de s'entendre, bien ça pourrait être un coup de mort, que ce soit pour Montréal ou que ce soit pour le baseball au complet. Il faut qu'on s'entende et il faut qu'on règle Oakland, il faut qu'on règle Tampa. Parce qu'on a réglé Montréal, moi, je trouve, très rapidement dans le passé. Oakland, ça fait 20 ans qu'on chiale, le propriétaire pas une scène, que le Coliseum, c'est un autre don. On veut essayer d'avoir un nouveau stade, on n'est pas capable, mais on les aide au clean. On continue à rester là. Montréal, rapidement, bon, le baseball majeur les a pris sous leur tutelle, puis ils ont vendu à profit à Washington. C'est-à-dire, à un moment donné, là, il va falloir que ça tourne la page, mais à long terme, je ne peux pas voir comment ça peut marcher. Mais la chose que je réponds aussi, c'est que Bronfman Sternberg, là, c'est pas des deux de pique. C'est des bons businessmen, des bonnes personnes, puis ils doivent savoir ce qu'ils font, mais ils veulent pas nous le dire encore au complet.
Mais c'est ça qui est fou dans l'histoire, tu sais, parce que ça s'est déjà vu plein de fois, tu sais, des pressions politiques, Par exemple, pour mettre de la pression sur les autorités municipales à Tampa pour avoir un stade, ben là, après ça, tu sais, tu joues la game. Mais le projet de garde partagée, tu sais, il est parlé, genre, publiquement par Sternberg, par Manfred, puis là, tu fais comme... Ça peut pas juste être une grande mascarade, tu sais, c'est comme... Non. C'est ça qui m'échappe, moi, c'est comme...
J'ai la même impression que vous, les gars, là-dessus. Je me dis, tu sais, si c'est un plan, si c'est une stratégie, tabarouette, il me semble qu'on utiliserait beaucoup plus. Je vais déménager. Comme Tampa a été utilisé par les White Sox et San Francisco. Deux vieilles fiettes franchises qui ont voulu déménager à Tampa avant que Tampa ait une équipe. On a dit à Tampa, dites que vous allez avoir, mais vous allez avoir une expansion un jour. Ben, White Sox ont leur nouveau stade et les Giants ont leur nouveau stade. Deux équipes à succès, ils ont gagné des séries mondiales, les deux par la suite, ils ont des beaux stades, ça va bien, Tampa a eu une équipe. Est-ce que Montréal, on est en train de faire la même chose? Même Fred qui parle à Bronfman sous le couvert de l'anonymat, tu regardes, continue à pas dire grand-chose, dis que tu es derrière le projet, Tampa, on veut avoir un stade, ben, vous allez être dans l'expansion. T'sais. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses.
Mais c'est parce qu'il y a des gens là, de Montréal là, qui ont travaillé en Floride là, dans la dernière année. Là. Fait que, tu sais, il y a de quoi, là, il y a une équipe là, tu sais, qui se bâtit. Là, tu sais, parce que moi, je pensais exactement comme toi, Alex, que, OK, oublie ça, là, ça ne marche pas, là, ça ne se tient pas debout, ça va durer un an, puis après ça, le déménagement complet va se faire à Montréal. Tu sais. Mm-hmm. Puis il y a une partie de moi qui croit encore un peu ça, mais tout ce qui a été dit publiquement, le monde ne peut pas entuber.
C'était fait par les voix officielles, là, je veux dire. C'est vraiment le baseball majeur qui le dit.
Bronfman, là, c'est quelqu'un de très, très respecté là, par Sternberg, par Manfred. Fait que, tu sais, c'est pas vrai là, que. C'est pas vrai que Tampa est en train d'utiliser Montréal.
Non.
Je pense pas
non plus. Puis je me dis, tu sais, des fois, des idées que personne croit, des idées farfelues. Peut-être que c'est les idées qui vont marcher. Peut-être dans 20 ans, on va dire, waouh, quelle idée géniale d'avoir fait ça, d'avoir travaillé de cette façon-là. Et, tu sais, les 40 parties chaque, tu as deux fois plus de partisans, tu as deux fois plus de TV, les games à Tampa en français. Je veux dire, est-ce que tu as besoin de deux staffs de bureaux? Tu as des employés à Montréal? Est-ce que la fédération est plus impliquée en ayant des bureaux dans le nouveau stade? Tu utilises, comme tu dis, au niveau avril-mai, juin, est-ce que c'est t'as des tournois, t'as des activités, t'as des concerts, t'as toutes sortes de choses. Alors, ils ont plein de choses à penser. Je suis persuadé que les gens qui sont dirigés par Bronfman et Sternberg pensent à toutes ces affaires-là. La pandémie, elle a sûrement reculé ou retardé le tout. Ouais. Mais la question la plus simple, c'est de dire, est-ce que les expos vont être de retour un jour? Moi, je pense que le baseball professionnel des Ligues majeures va être à Montréal un jour. Reste à déterminer quand.
Bon, Alex, il nous reste à peu près 5-6 minutes. Moi, j'ai deux, trois questions rapides pour toi, puis tu me réponds le plus rapidement et le plus précisément possible. Les Phillies ont acquis Carl Gibson et Ian Kennedy à la date limite des transactions. Qu'est-ce que tu penses de ces ajouts-là pour ton équipe là, à la date limite des transactions?
Excellente acquisition. Carl Gibson, c'est pas un lanceur de puissance, mais c'est un gars qui donne des départs de qualité à tous les 5 jours. Il a été très bon les dernières années et on l'a sous contrat en 2022. Alors, David Dombrowski, notre DG, il n'est pas venu à Philadelphie pour rebâtir. Il est venu pour gagner une troisième série mondiale et de se rendre au temple de la renommée lui-même un jour. Kennedy, vétéran, releveur, qui nous donne des manches de qualité. Ce n'est pas un Mariano Rivera. Il a été utilisé pas mal à outrance en fin de partie. Il donne des circuits, mais il y a eu des retraits importants. Moi, je pense que les deux ajouts des lanceurs nous font de nous autres une meilleure équipe. Puis je pense qu'on est 8-2. Depuis ces acquisitions-là. Alors, tout le monde est content du côté des Phillies.
Oui, puis là, dans l'Est de la Nationale, c'est complètement fou, là, la guerre jusqu'à la fin de la saison. Là, les Braves ont perdu à Acuña, malheureusement, mais s'accrochent. Les Mets sont allés chercher Javier Baez, ça leur a donné un petit oomph, mais là, ça va moins bien. Et là, vous avez pris le contrôle de la division. Comment tu vois ça d'ici là, la fin de la saison? Encore un mois et demi, là, facile de gros baseball à jouer.
Ben, la division est simple, c'est les Mets, les Phillies, les Braves vont se battre jusqu'à la fin, puis c'est une équipe qui va sortir championne, espérant que c'est les Phillies, puis les deux autres ne seront pas dans les séries parce que les wildcards vont venir de l'Ouest parce que San Diego, Los Angeles, San Francisco, leurs fiches sont trop bonnes. la division Est de la Ligue nationale, là, c'était supposé être une puissance. Mais tout le monde se bat entre eux autres. Tout le monde a eu des bons, des mauvais moments. Les Mets ont perdu de Grom. Les Mets frappent plus. Les Phillies, toutes les misères du monde les deux premiers mois. La relève a flanché. Tout d'un coup, notre relève est bonne et notre offensive roule à pleine vapeur présentement. Ben oui. Harper, le mal-aimé, est un candidat au MVP. Il frappe Real Muto, frappe Gene Segura, frappe des réservistes comme Travis Jankowski, Brad Miller font le travail. Puis quand tu as Wheeler, Nola, Gibson, puis avec le retour de Eflin, ça te donne 4 partants de qualité sur 5 départs. Tu as une chance de compétitionner à tous les jours. Moi, je pense que ça va être... On ne peut pas gagner. Là, on est sur un streak de 8 victoires. Les Mets, eux autres, sont plus capables de rien faire de bon. Les Braves, avec Antopoulos qui est allé chercher plusieurs voltigeurs pour pallier à la perte d'Acuna, commencent à jouer du bon baseball. Ça va être toutes des parties, ce qu'on appelle des parties de 4 points à la fin de l'année. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va... Ce qui est le fun, c'est que le mois de septembre, dans ces 3 villes-là, va être du baseball des séries, puis ça va se finir enfin dans la dernière semaine du mois de septembre pour voir qui va gagner. Ça va être une vision à voir puis à épier jusqu'à la fin. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais ça va être du bon baseball.
Ce qui est le moins le fun, c'est que ça va être dur d'être dans les deux équipes repêchées avec l'Ouest.
Moi, je te dirais, il faut que tu gagnes la division. Là, les Phillies sont à 6 parties au-dessus de 500, mais tu sais, 2-3 défaites de plus. Les Mets sont à 1 en haut de 500, les Braves à 2. Tu regardes l'Ouest, là, Padres, Dodgers, présentement, risque d'être repêché. Les Giants sont en première place avec 71.
Mais qu'est-ce que tu penses de ça, Alex, des Giants? Il n'y a personne qui voyait ça. Ils ont toujours réussi toujours à avoir un lapin qui sort du chapeau quelque part, puis là, ils font une grosse saison.
Farhan Zaidi a fait tout un travail. T'sais, Gabe Kapler, là, c'est quelqu'un que je connais quand même assez bien. On se tape de temps en temps. Il a été malmené à Philadelphie. C'était pas le bon fit. C'est un gars de la Californie. C'est un gars en forme. C'est un gars qui mange bien, qui s'entraîne. Puis... Il n'a jamais été aimé à Philadelphie. Je ne sais pas pourquoi. Les médias l'ont toujours été durs envers lui. C'est sûr qu'il a fait des erreurs gérant recrue. Mais là-bas, c'est une équipe que tout le monde va bien. Puis les vétérans qui ont déjà gagné leur série mondiale ont un regain. Les Buster Posey, les Brandon Belt, les Crawford à la recours. Puis tu as des jeunes, un gars comme Yastrzemski qui sont allés chercher notre coupe d'année du nouveau 3 de notre équipe qui fait du bon travail. Puis il lance bien. La relève fait le travail. Moi, je suis surpris. Tout le monde s'attendait. Ah, ben ils vont flancher à un moment donné. Les Dodgers ou les Padres vont les dépasser. Ah oui. Mais tu regardes ce matin, ils ont 71 victoires. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, dans l'Est, tu as 3 équipes qui jouent à peu près 500. Il y en a 2 qui vont être éliminées. Dans l'Ouest, tu en as 3 qui jouent 600 et plus. Là-dedans, tu as Dodgers, Padres peut-être. Imagine Dodgers, Padres, une partie, match éliminatoire pour voir qui va aller jouer dans la ronde des séries. Il y a beaucoup, beaucoup d'intensité déjà entre ces équipes-là. Tatis Junior qui est blessé, qu'on va peut-être le ramener, mais au champ centre, pour essayer d'enlever un petit peu de stress sur son corps. Alors, on verra bien. Les Giants, ils font tout le temps ce travail-là. Ils vont toujours chercher des bons joueurs que personne ne connaît qui font le travail. Alors, c'est les meilleurs mois du baseball. Là. Le mois d'août, le mois de septembre, ce qu'on appelle en anglais les Dog Days of August, c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Tu vois qui se bat pour la fin. C'est le fun de voir, comme dans l'Est, même si les équipes n'ont pas des fiches incroyables, si tu es partisan des Braves, des Phillies ou des Mets, toutes les parties qu'ils vont jouer dans le prochain mois ou deux, là, c'est des parties intenses, c'est des parties de série que les partisans veulent aller voir. Tu sais, à Philadelphie, au début d'année, oui, il y a eu la pandémie, tu avais le droit à tant de personnes, 10 000, après ça, 15 000. Ben, il y a eu 30, 37, 40. C'était une fin de semaine où on a honoré Roy Halladay, une semaine où on a mis Manny Trio sur le mur du Hall of Fame. Les anciens joueurs étaient sur place. Il y avait un vibe incroyable. On a balayé les Mets. Là, les partisans, c'est les Dodgers qui s'en viennent. Bien là, on va aller voir si les Dodgers qui s'en viennent. Là, c'est un autre gros test pour les Phillies parce que tu joues contre une autre équipe championne. Puis là, c'est ça. La confiance continue. Puis, je veux dire, c'est juste de bon augure pour la fin de saison.
J'en ai une dernière. Tu parlais de l'Est de la Nationale, mais l'Est de l'Américaine, aïe aïe. Comment tu vois les Blue Jays? Vont-tu pouvoir se faufiler contre les Yankees? Les Red Sox, ça commence à être plus difficile. Les Rays se maintiennent. Bref, c'est une guerre à 4.
Ben, les Blue Jays sont dans une division où tu n'as pas le droit de chômer. Puis je pense qu'il faut donner crédit à Shapiro, Atkins. La façon qu'ils ont bâti leur équipe les dernières années fait en sorte qu'ils sont capables de compétitionner avec Boston, Tampa, New York. Évidemment, ils doivent battre les autres équipes dans les autres divisions. Sauf qu'ils continuent à grandir. Ce que je vois des Blue Jays cette année, c'est une progression. L'année passée, 60 parties, on fait série parce qu'il y avait plus d'équipes. Ils ont coûté. Là, cette année, haut et bas, début de saison, c'est les lanceurs. Là, tout d'un coup, Ryu fait le travail. Robbie Ray, qui a un regain.
Incroyable.
à Toronto. Tu fais l'acquisition de José Berríos. Tu es en train de te bâtir une rotation de partants plus que respectable. La relève, elle a des hauts, des bas, on ne sait jamais. Puis là, tes jeunes joueurs, comme Guerrero, comme Bichette, tu regardes ça aller, tu ajoutes deux vétérans respectés en Semien, juste un an, et en Springer, qui a eu le circuit qui est sûrement
fait vibrer. Fou, oh, ouais.
Roger, c'était
Canada. Contre ça. Oui, oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais puis Springer, ce qui est intéressant, qui est un produit de l'Université de Connecticut, a frappé ça contre son ancien coéquipier de l'Université de Connecticut, Matt Barnes.
Matt Barnes, oui.
Ces deux gars-là te montrent le chemin à Guerrero, à Bichette et à toutes les autres. C'est une équipe qui est bâtie. Est-ce qu'ils vont faire les séries cette année? On ne sait pas. Mais ils se mettent en position avec cette série contre les Red Sox d'être prêts d'une position pour participer dans le meilleur deuxième, puis au moins de jouer des parties qui comptent en août et en septembre, de remplir le stade, le Stade Rogers, puis donner cette expérience à cette jeune équipe-là, de jouer des parties que, comme hier, des parties tu perds 7-1, tu gagnes. Avec qui en tête? Avec Springer. Springer va montrer le chemin. Springer, avec you, c'est un des gars les plus respectés du baseball majeur, et c'est pour ça qu'ils l'ont signé à gros coups pour 5-6 ans, avec beaucoup d'argent, même si c'était blessant en début d'année. Là, tu vois l'apport qu'il amène. Là, tu regardes l'équipe, tu te dis, ah ouais, si je suis un partisan des Jays, là, on peut compétitionner contre Boston. On vient de le montrer 3 en 4. Les Yankees ont fait des ajouts. Ils vont être difficiles. Ils jouent très bien aussi, les autres, depuis la pause du match des Étoiles. Alors, ça force Toronto et son état-major à toujours être prêt, de toujours tenter d'améliorer ton équipe, de ne pas t'asseoir. Parce que si tu t'assois, tu regardes, tu es en quatrième position. Il y a juste 2-3 équipes maximum qui pourraient faire les séries dans ta vision. Tu es quatrième présentement. Mais, évidemment, une partie comme hier fait en sorte que tu crois en tes chances. Alors, les chances sont là. Ça va être difficile. Mais ce que j'aime, même s'ils ne font pas les séries cette année, les 3, 4, 5 prochaines années, c'est une équipe qui va compétitionner. Tu fais une coupe d'autres d'ajouts. Tu as Berríos peut-être à long terme si tu es capable de le signer avec Ryu déjà sur place puis avec d'autres jeunes comme Alek Manoah qui a été repêché en 2019. Il est déjà dans les majeurs. Il y a seulement 9 départs dans les mineurs, puis cette semaine, il y a eu son 10e départ dans les majeurs. Il pense très bien. Si ce gars-là demeure en santé, c'est une autre grosse pièce pour continuer à bâtir.
Oui, puis tu as Nate Pearson qui s'en vient. Ouais. Il est lui aussi toujours blessé. Bref, l'avenir est bon à Toronto. Alex, merci beaucoup de ton temps ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous, puis écoute, j'en aurais pris une autre heure, mon Ben, du Alex.
On va aller déjeuner, on va aller prendre une marche. Après ça, on va aller préparer la partie de ce soir. Puis, très hâte d'être de retour au Québec, soit mardi soir ou mercredi, là, pour juste tout simplement profiter de ma famille, de mes amis.
Oui, on salue ta famille, grand-papa Alex.
Oui, j'ai bien hâte de voir Quinn et Nico. 2 mois demain. Wow. Jeune garçon, très fier de ma fille et de son chum Max. Ils ont super bien fait ça, puis c'est ça la vie.
Hey, très généreux, Alex, puis merci pour tout ce que tu fais pour le Québec.
Plaisir, les gars. Baseball. Merci à vous autres.
Merci, Alex.
Bye-bye. Cher ambassadeur, bye-bye.
Wow.
C'est cool, quelque chose à rajouter. On aurait pris une heure de plus.
Il a tout dit.
Mais tu sais, non seulement... il y a le bagage, mais c'est la façon qu'il communique aussi.
Ah,
c'est un bon communicateur. Tu le sens, là, il est passionné, là, il raconte ses histoires, il mord dedans.
Vraiment.
Fait que, non, très cool. Hey, pour finir le show, j'ai un pitch and catch pour toi. Mais en fait, je t'envoie 2 balles rapides. Okay? Première, c'est qu'avec la course aux séries, là, il y a eu Max Scherzer, entre autres, qui a été embauché par les Dodgers. Puis là, on voit avec le classement des équipes repêchées, là, il pourrait avoir un affrontement Padres-Dodgers pour le match éliminatoire, là, un seul match. Qui t'envoie au monticule pour les Dodgers, maintenant que tu arrives là? Scherzer, Kershaw, Bueller.
Aïe, aïe, aïe.
Tu sais, parce que
Bauer aussi qui est dans le. Lui, on ne sait pas trop s'il va revenir, là, mais pourrait être une option éventuellement, mais je pense que le vestiaire ne le veut plus. Là.
Non, c'est ça. T'as genre un des gars qui a gagné le Cy Young ou qui a passé proche, puis il n'est même pas considéré. Là,
c'est ça, exact.
Ça te montre-tu la profondeur des Dodgers?
Mon premier choix serait peut-être Bueller, de par son horloge suisse, là, il va toujours te donner la même chose. Mais je pense que l'ajout de Max Scherzer t'amène à un autre niveau. Le gars a gagné des gros matchs. Tu sais qu'il va te donner un 6-7 où il ne donnera pas grand-chose. Puis, tu sais, même Clayton Kershaw pourrait être considéré. Là, il a une super bonne saison cette année. Mais
c'est lui, Monsieur Dodgers.
Exactement. Sauf que lui, je pense que le temps, ou c'est en tout cas, mais tu sais, en même temps, Max Scherzer est quand même pas jeune non plus. Je sais pas. Mais mon choix serait peut-être Max Scherzer, juste pour ce qu'il peut apporter. Puis. Ouais, j'irai avec Scherzer. Puis du côté des Padres, mettons, j'irai avec Blake Snell, peut-être.
Côté baseball, là, moi tout, je pense que j'irai avec Scherzer. Puis tu sais, à un moment donné, t'arrives, t'es dans les playoffs, là, tu peux pas épargner l'ego de tout le monde, là, mais non. Sérieux, là, ça serait un manque de respect pour Bueller ou Kershaw, là, tu sais, de.
Ben, moi, je pense que Scherzer, le choix des dangereux mais... serait probablement Kershaw.
Ouais.
Parce que
c'est on va sûrement finir par le voir, parce
par le savoir.
Ça se dessine. Puis l'autre petite question, dans le fond, que j'avais pas, mais que je veux te poser parce que ça m'a fait penser à ça tantôt. Supposons là, que les Blue Jays vont dans les deux équipes repêchées. Là. Tu mets sa butte, Ryu ou Berrios?
Berrios, c'est même pas une question.
Ah ouais?
Ah ouais, moi, pour moi, c'est, ouais, Peria, c'est une machine. Ryu, on l'a vu hier. Tu sais, normalement, il est solide pendant toute la saison, mais de temps en temps, il en perd une complètement. Puis c'est arrivé en série l'an passé contre les Rays. Là, le deuxième match, on s'est dit, hey, c'est Ryu qui va lancer. Les Blue Jays ont une chance de niveler la série. Puis il ne l'avait pas du tout. Donc, mon choix, ce serait Peria. Je pense qu'ils sont allés chercher pour cette raison-là, puis en plus, il y avait une année de contrôle en plus, donc non, moi, mon choix serait Berrios. Ça serait
bien pas intéressant. Quoi que,
moi, Robbie Ray connaît une saison incroyable.
Dans
la
poule, j'ai Berrios, puis toi, t'as Ryu, mais non, je ne t'échange pas one-on-one, tout à l'heure.
Ben, tu vois, tu viens de répondre à ta propre question.
Ouais, par contre, ça me laisse penser qu'un jour, je vais pouvoir te soutirer Ryu.
Ah, ça, c'est, faut que tu mettes des bonus dans l'offre.
Ouais. Bon, ben, hey,
ben
c'est super
ben, c'est...
cool.
Yes.
On va finir avec le mot de la fin habituel. Donc, on vous rappelle que le suicide ne devrait jamais être une option. Donc, si vous avez besoin de parler ou de discuter, 1-866 appel. Puis, sinon, on vous dit peut-être pas à la semaine prochaine, les vacances s'en viennent, là, mon ouais. Sylvain, tu t'en vas voir les baleines.
Ah, je ouais. C'est en discussion encore, là, mais oui, ça devrait. On va essayer de sortir de la maison un petit peu pour.
Ah, Mouetou, après les Jeux Olympiques, là, Mouetou, je pense que je suis dû pour. Mais on va tenir au courant, là, tout le monde. Là, c'est quand le prochain épisode début rempli. Puis merci d'être là, puis nous écouter. C'est très apprécié. Sly, à bientôt.
Merci beaucoup, mon Ben. Bye bye.
Ah, oui, down. La maison entrée.